Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Nous sommes heureux de recevoir Jacques Expert, qui vient de publier son nouveau livre aux éditions Sonatine, « Deux gouttes d'eau ». Alors Jacques Expert, j'étais en train de mener une enquête sur lui avant qu'il arrive. Et Jacques Expert est bordelais, on est d'autant plus heureux de le recevoir. Mais vous ne vivez plus à Bordeaux, hein ?
Pardon ?
Mais vous ne vivez plus à Bordeaux.
Non, je ne vis plus à Bordeaux depuis pas mal de temps, en fait. Je suis parti à peine 2 ans, si je me souviens bien.
Mais vous connaissiez la librairie, c'est ça que je voulais savoir.
Je ne vais pas vous dire non, d'abord, parce que ça ne serait pas gentil. Mais tout le monde connaît Mola, forcément.
Il y a des souvenirs qui traînent.
Parce que même, c'est plus que des souvenirs, en réalité. C'est-à-dire, c'est vraiment... Il y a quelques librairies qui comptent en France, indépendantes, et Mola en fait très largement partie. Je ne veux pas vous flatter trop pour que vous soyez gentil avec moi, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, c'est Mola... Je connais parce que je suis bordelais, mais aussi parce que c'est un des passages obligés de la littérature en France. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Bon, on est heureux de vous recevoir, d'autant plus. Alors, je vais juste dire quelques mots sur votre carrière pour savoir comment vous êtes passé à l'écriture. Parce qu'au départ, vous êtes journaliste, grand reporter. Vous avez travaillé à France Info, à France Inter. Vous avez été producteur, rédacteur en chef de TF1. Vous êtes actuellement directeur des programmes d'RTL. Vous êtes un homme de radio, de télévision, de médias. Comment êtes-vous passé à l'écriture ?
Quand on est journaliste, c'est il y a quand même une filiation quand même objectivement entre journaliste et l'écriture. Quand on est journaliste, on écrit, donc il y a déjà disons un premier lien. Après, en revanche, c'est pas du tout la même chose.
Oui.
C'est vraiment totalement différent. Donc, alors comment je suis passé à l'écriture ? D'abord, j'ai quand même fait des livres avant de faire des romans. J'en ai fait un premier livre en 89 qui était sur la détention de longue durée, qui s'intéressait aux détenus qui étaient condamnés à perpétuité avec le processus classique, j'entre en prison, en gros j'ai 30 ans à faire, et j'en sors et je viens de faire 30 ans. Donc c'était le thème de mon premier livre, qui était un essai chez Kahneman Levy. Ensuite j'ai été correspondant dans les Pays de l'Est, et j'ai fait un deuxième livre qui était un essai sur les gens que j'avais rencontrés au moment de la chute du communisme, parce que j'ai vécu cette période-là, la chute du mur, la chute de Ceausescu, la guerre en Yougoslavie, etc. Donc, à l'aune des gens que j'avais rencontrés, j'avais fait une série de portraits, ça s'appelait « Jean de l'Est », que j'étais venu présenter d'ailleurs chez Mola en 93. Et donc, il y a celui-là. Et donc, là, le dernier livre, c'est 96. Et je me suis intéressé à un moment, je voulais en faire en fait, hein, parce que j'ai fait pas mal de documentaires pour la télévision aussi, que ce soit pour Envoyé spécial, Zone interdite, reportage pour TF1, ou Le droit de savoir. Et je voulais faire un livre sur les femmes qui sont mariées à des serial killers ou des serial violeurs pendant des années sans le savoir. C'est un peu l'histoire, là, si vous avez suivi l'actualité de la semaine, il y a une quinzaine de jours, de cette dame dont le mari était instituteur et qui abusait d'enfants. Donc ça m'intéressait de voir le parcours de ces femmes, comment on peut vivre aussi longtemps avec un monstre sans le savoir. Et donc j'en ai parlé à une éditrice qui s'appelle Anne Carrière et qui m'a dit « Jacques, c'est un super sujet, mais vous n'y arriverez pas ». Donc j'ai quand même relevé le défi, à cette époque où j'étais patron, enfin je dirigeais les programmes de Paris Première. Et j'ai enquêté, j'en ai rencontré de ces femmes-là, et en fait elle avait raison, je ne pouvais pas y arriver, parce qu'il fallait, ou alors il fallait prendre un an de congé sabbatique. Et donc en revanche, la documentation que j'avais, tout ce que j'avais accumulé, je l'ai transformé en roman. Donc j'ai fait un premier roman qui s'appelle « La femme du monstre », c'est en 2007. Je l'ai écrit comme ça, de mon côté, et je l'ai envoyé à Anne Carrière le vendredi. Et pour la petite histoire, le lundi matin, j'étais en comité de direction de DEM6 et je reçois un texto qui me dit « Jacques, j'adore, je prends ». Donc c'était un peu au revoir président, vous savez, la pub, je manquais me lever et partir. Et bon, je suis resté quand même. Et c'est comme ça que ça... Et à partir du moment où je suis passé au roman, aujourd'hui, je peux faire que des romans. Parce que c'est mieux, en fait. C'est plus... totale liberté d'écriture, d'imagination, etc. Donc ça me convient totalement, beaucoup plus que faire des essais. Donc ce que je veux dire par là, pour revenir à votre question, comment je suis passé à la littérature, c'est en voulant faire un essai sur un sujet qui m'intéressait. Je voulais même faire parallèlement un documentaire pour France 2, enfin pour la télé. Et en fait, j'ai fait un roman et depuis, je ne peux plus m'en passer. C'est un truc... je ne peux plus m'en passer. J'adore ça. Je suis désolé, mais j'aime ça. Voilà.
Alors au départ, vos sujets s'inspirent quand même de faits divers. Je pensais que la transition allait se situer là.
Oui, parce que
il y avait une envie d'écriture quand même et de fiction au départ aussi, alors.
Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, plus que les histoires, j'essaie de faire des histoires qui sont intéressantes. Mais ce qui m'intéresse, c'est les individus, oui, c'est plus ça en fait. D'ailleurs, le premier, c'est pas un polar en fait, c'est plus un roman noir qu'un polar.
Oui.
Hein. C'est petit à petit que je me suis orienté, le dernier est plus polar que le premier.
Oui, hein, je suis d'accord.
Avec une intrigue très polar. Après, moi, c'est pour ça qu'ils sont très ancrés dans le quotidien, dans la vie. C'est-à-dire, mes actions ne se situent pas aux États-Unis, comme d'autres auteurs français. Parce que moi, c'est vraiment votre voisin qu'on peut reconnaître dans mes romans. C'est le don de l'observation. Après, c'est vrai que quand on est journaliste, s'il y a un lien entre le journalisme et l'écriture que j'ai un peu développé et qui est... Il n'y a pas ma marque de fabrique, ça serait peut-être un peu exagéré de dire ça, mais en tout cas, qui est vraiment mon univers, c'est vraiment l'observation. Moi, j'aime observer, je suis curieux des gens, et c'est ça que je raconte aussi. C'est pour ça que La femme du monstre, qui est un premier roman qui est extrêmement noir, qui est même dur pour ceux qui le lisent, il est totalement juste parce qu'il est basé sur ce que j'ai pu observer, raconter, sur mon observation de journaliste. Je pense que mon métier de journaliste participe à l'écriture de mes romans. C'est-à-dire, enfin, par exemple, même dans celui-là, toute l'étude sur la gémilité, sur les rapports de gémilité, elles sortent pas de ma tête. C'est-à-dire, avant, j'étudie la gémilité. C'est-à-dire, je fais des... j'ai vraiment le souci du détail pour pas que... pour que mes romans soient le plus juste possible, parce que je décris des gens. Donc c'est ça que je fais, en fait, au maximum. Je suis assez clair ou pas ?
Oui, tout à fait. On sent le côté... Ouais. Je me suis demandé d'ailleurs...
Donc je suis journaliste, donc effectivement, si on revient à la question de base, il y a quelque part un lien entre ce que j'écris et mon métier d'origine, puisque j'ai été pendant 20 ans vraiment journaliste de terrain, c'est l'observation et rendre compte de cette observation. Et je me souviens, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, le livre que j'ai fait sur les pays de l'Est, j'aurais pu faire un essai géopolitique sur le changement, le passage du communisme au capitalisme. Je l'ai fait, c'est le fondement de ce livre, simplement je l'ai fait à travers le portrait de gens que j'avais rencontrés. Comment eux ont vécu ce passage-là. Vous comprenez ? Je m'intéresse plus aux gens qu'aux faits. Je ne sais pas comment dire. C'est vraiment ça qui est mon intérêt.
Oui, et puis on sent...
Et après, c'est amusant d'inventer des histoires. C'est pour ça que maintenant, j'aime inventer des histoires.
Voilà. C'est vrai que vos histoires sont prises dans un quotidien où chacun peut se reconnaître. On va venir au livre, hein, après, plus précisément. Mais je voulais juste situer un peu
c'est vrai.
C'est-à-dire,
je peux raconter une petite anecdote sur un roman qui s'appelle « Ce soir, j'ai tué l'assassin de mon fils ». Le personnage est un voisin de chez moi, de la rue où j'habitais à Meudon. Enfin, parce que le personnage, excusez-moi d'être un peu trivial, est un peu connard. Et donc c'était le connard de la rue, celui dont je vous parle. Et donc il a inspiré mon personnage central. Et donc c'est lui qui m'a inspiré. Je le regardais et son comportement, c'était bon. Après, il a pas écrasé un enfant. Hein.
Oui.
Mais c'est lui, physiquement, etc., c'était lui. Et d'ailleurs, juste pour la première histoire, un jour, il y avait un papier dans Le Parisien qui disait « Mais vous avez... » Je racontais que c'était quelqu'un de ma rue, un connard qui m'avait inspiré. Il est arrivé avec le papier en disant « Alors, super, mais c'est qui le connard de la rue ?» Donc voilà.
Il ne s'est pas reconnu.
Il ne s'était pas reconnu, pour vous dire à quel point il était connard. Voilà. Donc, non, mais c'est pour dire que c'est l'observation qui, moi, me guide dans mon... et je vérifie. Par exemple, dans la théorie des six, parce que mon personnage compte les pas d'un endroit à un autre, je vérifiais que le nombre de pas correspondait bien à ce qui comptait, à quelque chose près. Enfin, pas la maniaquerie quand même d'être au pas près, mais en gros, c'est ça.
Oui, le réalisme.
J'essaie d'être le plus réaliste possible, même dans les petits détails comme ça.
Alors vous parliez de « Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils ». J'ai vu qu'il était sorti en DVD, en fait. Du coup, je l'ai visionné il y a quelques jours.
Oui.
Je voulais savoir si vous étiez content de l'adaptation donc, de Pierre Atkin. C'est Jean-Paul Rouve qui est du connard.
Voilà, exactement. Mais il ne ressemble pas à mon connard.
Père, non. Non, vous avez été déçu ou...
Non. Bon, d'abord, parce que c'était une adaptation, c'était il y a un an. C'était en mars de l'année passée. Non, j'étais pas déçu. Après, c'est une adaptation, donc il faut accepter qu'une adaptation soit une adaptation. C'est-à-dire que c'est pas exactement le roman.
J'ai trouvé que l'atmosphère y était quand même.
Mais en revanche, ce qui était, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, il y a des, pour vous dire, après, c'était pour TF1, donc c'était un DVD qui s'est passé sur TF1 le 30 mars de l'année passée. Donc TF1 a pas le même, si ça avait sur Arte, par exemple, si Arte l'avait commandé, je pense que ça aurait été plus proche de la noirceur de mon livre. Et c'est pas, après, ils en ont fait surtout une relation entre un mari et une femme dans l'adaptation, alors que moi, c'est plus la vision de quatre personnages sur un même événement. Mais ça, c'est mon roman, mais pour vous dire TF1, il faut toujours un peu arrondir quand c'est TF1, il faut être un peu plus rond que carré comme, ou à angle droit comme mon roman. Et à TF1, l'enfant qui est écrasé et dans mon roman, il est fils unique. À TF1, vous savez, il y a un peu la séance de rattrapage. Il avait une sœur, quoi. Vous voyez. Donc ça, c'est du TF1. J'y peux rien. C'est comme ça. Donc ça, il faut savoir l'admettre. Après, la description elle-même de l'univers que j'ai raconté, très proche qui était dans le téléfilm, qui est pour moi, qui est un téléfilm réussi en l'occurrence. Donc je suis content. Si vous me demandez si je suis content d'adaptation de Pierre Hecknin, tout à fait. Après, c'était assez vertueux dans le tournage parce que bon, je suis allé sur place à plusieurs reprises. Je voulais même faire comme Hitchcock, avoir un passage derrière.
Ah, c'est vrai.
Ouais. Et c'était prévu. C'est pas une scène à l'enterrement du gamin. Il me manque de peau. Il fallait que je reste tout l'après-midi. Je pouvais pas, donc j'ai pas pu passer dans mon téléfilm. Autrement, c'était prévu que je sois figurant. C'est vrai. Mais en tout cas, ça s'était très bien passé parce que c'était assez vertueux avec les comédiens, que ce soit Jean-Paul Roux, Audrey Lamy, Samy Bouajila ou Anne-Marie Vin. On n'est resté pas amis, mais on a toujours des relations assez amicales. Donc ça s'est très bien passé. Et en plus, j'étais associé j'ai pas écrit le scénario ni l'adaptation. Hein. C'est Pierre Hecknin qui l'a écrit. Mais j'étais associé au choix des comédiens, etc. C'est même moi qui ai soufflé le nom d'Audrey Lamy, par exemple. Oui, donc c'était assez vertueux. Objectivement, c'était. Puis après, au final, ça a très bien marché, puisque ça fait 8,5 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même pour TF1 un très très gros score. Donc tout était bien. Franchement, ça a été un très bon souvenir. Voilà.
Donc là, on parle des premiers livres. Après, donc les trois premiers ont été publiés chez Anne Carrière.
Les trois premiers, oui. Ouais.
Et après, vous êtes passé chez Sonatine. Mais quand j'ai regardé le catalogue de Sonatine, vous êtes le seul auteur français chez Sonatine.
Ouais.
Expliquez-nous cette exception.
Ah ouais,
bah... vous arrivez chez Sonatine avec Adieu en 2011.
Ouais. Alors, comment quitter un éditeur sans se fâcher avec lui? C'est la principale. Surtout quand j'avais surtout un éditeur qui vous a fait confiance au début, qui vous envoyait un texto en disant deux jours après j'aime, je prends quoi. Oui. Même j'adore, je prends. En revanche, alors pour moi, Sonatine est le meilleur éditeur de polar. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des polars bien ailleurs, hein, mais je veux dire, ils ont une politique de polar exceptionnelle, je trouve. Mais ils font que des polars anglo-saxons, donc normalement, il n'y a pas de place pour un Français. Mais vraiment, il y a des romans qui sont exceptionnels pour ceux qui aiment les polars. Un jour, c'était au festival de Deauville, juste avant Adieu, et je rencontre une fille du Cherche Midi, et qui me dit « Tu n'aurais pas changé d'éditeur, etc. » J'ai dit « Non, moi je suis très bien chez Anne Carrière, j'ai pas envie de changer d'éditeur. » Et j'étais en train d'écrire Adieu. Et je lui ai dit, de toute façon, il n'y a qu'une maison où j'irai, c'est chez Sonatine, mais ils n'ont pas d'auteur français, donc j'ai aucune chance. Enfin, je lui ai dit comme ça. Et elle me dit, mais si tu veux, je peux te faire rencontrer François Verdoux. Et donc, j'ai déjeuné avec François Verdoux, et ça a matché entre nous. Et je lui ai dit, je suis en train de terminer un roman qui s'appelle Adieu. Mais moi, j'ai une caractéristique, c'est que je ne signe pas de contrat. J'écris mon roman, et puis je signe le contrat après, il faut qu'il est fini. Donc, je n'ai pas de contrat avec Anne Carrière. Mais ça explique pourquoi j'ai pu partir assez librement. Mais malgré tout, François Verdoux m'a dit, écoutez, ça me plaît votre adieu, là, mais moi je ne veux pas me fâcher avec Anne Carrière, donc vous vous débrouillez avec elle pour partir de chez Anne Carrière. Et, Et donc je suis allé voir Anne, j'ai dit « Anne, le prochain roman, je ne le fais pas chez toi. » Parce qu'on avait des relations très amicales et extrêmement de confiance avec Anne Carrière. Et elle m'a dit, où tu vas ? J'ai dit, j'ai envie d'aller chez Sonatine. Mais donc, je lui raconte l'histoire, etc. Et elle me dit, tu peux y aller sans problème. Tu as largement ma bénédiction pour y aller. Donc c'est comme ça s'est fait. Donc avec Anne Carrière, on est resté. Et elle m'a dit, si un jour tu fais un roman qui ne soit pas un polar, je t'accueillerai volontiers. Donc on s'est quitté vraiment, très bons amis, on se voit toujours. Donc c'est idéal de quitter un éditeur sans se fâcher quand on change de maison d'édition. Mais ça s'est fait en toute clarté. Donc voilà pourquoi je suis passé de chez Anne Carrière à Sonatine, où je suis très bien.
Une belle histoire de rencontre.
Et c'est une belle histoire de rencontre, mais avec Anne Carrière, c'était une belle histoire de rencontre aussi donc, mais qui s'est bien terminée. C'est une rupture plus qu'à l'amiable, en toute confiance et en toute affection, je dirais. Donc ça, c'est essentiel.
Donc Sonatine vous accueille pour Adieu. Puis pour qui, en 2013
ouais.
Est-ce que vous voulez en dire un petit mot? Et après, on va passer à la nouveauté, bien sûr.
Oui, alors qui c'est? Alors, c'est vraiment inspiré de faits divers. C'est Crime qui reste élucidé pendant... c'est en regardant la télé, en fait, l'émission d'Arnaud Poivre d'Arvor qui s'appelle Portée disparue, qui raconte, qui revient sur des histoires non élucidées. Et en regardant la télé, je me dis, ça parlait justement d'un crime qui n'était pas celui d'un enfant, qui était celui d'une jeune femme, enfin peu importe, et je dis quand même, le salaud qui a tué cette femme, il est en liberté, et peut-être qu'il a une vie, peut-être qu'il a une activité à côté, un métier, une femme, des enfants, etc., il continue à vivre, mais tout en ayant le poids d'un crime qu'il a commis. Et c'est en voyant cette émission, je me suis mis dans la peau de ce type-là, comment il peut ressentir... Quelle est sa vie alors qu'il a quand même un lourd passé derrière lui, comment on arrive à gérer ça. Et donc, c'est en voyant la télé, je me suis mis dans la peau du mec qui voit son émission à la télé, peut-être avec sa femme ou ses enfants, et on parle de lui, et puis il est obligé de la fermer pour continuer à être innocent. Et donc, le livre est construit sur la durée d'une émission de télévision qui ressemble à celle d'Arnaud Poivre d'Arvor, où il y a 4 suspects potentiels, et à la fin du livre, on sait lequel des 4 a été l'assassin 19 ans plus tôt d'une enfant, alors qu'il n'avait pas été découvert. Donc c'est la durée du livre, c'est 52 minutes, la durée d'une émission de télé de ce genre. Voilà. C'est cette histoire-là. Mais à la fin, on sait lequel des 4, alors qu'ils ont tous des raisons personnelles, il y a le frère, l'instituteur, le voisin, enfin les deux voisins, qui sont susceptibles même d'avoir tué. Donc on passe de l'un à l'autre, à chaque fois on se dit, tiens, c'est lui qui a tué. C'est ça la mécanique du livre.
Voilà, vous êtes malin, ouais. Vous êtes malin pour la structure des livres.
Hein. Ah, je suis malin,
les espèces de manipulations infernales, qui piègent le lecteur. Vous êtes fort pour les fausses pistes, les rebondissements. Il y a plein de choses auxquelles on ne s'attend pas. Est-ce que vous avez tout ça dans la tête avant l'écriture ou ça se dessine au fur et à mesure, petit à petit? Comment ça vient, l'intrigue?
Merci, c'est un compliment d'être malin.
Oui.
Non, parce que moi, j'ai une caractéristique qui est assez personnelle et qui vous étonnera peut-être dans ma réponse par rapport au livre. C'est que j'écris sans plan. Et sans connaître la fin. C'est-à-dire sur les 4, on parlait de qui tout à l'heure. J'ai hésité pendant longtemps pour savoir lequel j'allais faire le coupable.
Hein. Il y a des écrivains qui aiment se surprendre eux-mêmes.
Et donc, je pense que l'aspect un peu, je dirais, page-turner, qui est presque moi-même, c'est-à-dire que je prends des pistes que j'ignore. Oui, par exemple, dans celui-là, il y a un personnage, le personnage de l'obstétricienne. Je ne l'avais pas du tout imaginé au début, alors qu'elle a une place essentielle dans le roman.
Ouais.
Hein? Donc, mais ça vient petit à petit. Et par exemple, dans celui-là, je ne savais pas lequel des deux jumeaux allait être au final le coupable.
Vous agencez comme un Pulse, en fait.
J'avance comme ça, oui. Et là, j'ai commencé un prochain roman, là, le prochain chez Sonatine. Et je ne sais pas, j'ai écrit 9 chapitres. Et je ne sais pas comment je vais avancer maintenant. Enfin, j'avance chapitre après chapitre. Vraiment. Et dans Adieu, qui est l'un des précédents, j'avais écrit 200 pages, ou plus que ça, donc pratiquement beaucoup travaillé quand même, enfin pas mal bossé. Et alors là, j'étais totalement bloqué. Et c'est un soir en m'endormant que j'ai trouvé la solution. Vraiment, en m'endormant, ça me prenait vraiment la tête. Là. À un moment, ça prend la tête, on se dit, on ne peut pas avoir écrit 200 pages et les mettre à la poubelle, ce serait dommage. Mais j'étais pas loin de ça, et j'ai trouvé la solution en m'endormant. Et je peux vous dire que on dort comme un bébé, après.
Et c'est vrai voilà. Qu'il faut une fin, pour un polar, il faut un déclic. Hein.
Ouais. Parce que, si vous voulez, un polar, après, je pense qu'il y a deux choses qui sont essentielles dans un polar, c'est le début et la fin. C'est-à-dire, je ne peux pas me... Et c'est vraiment ce que je chiade au maximum. C'est-à-dire, il faut que la fin soit à la hauteur du début ou de l'intrigue. Parce que parfois, il y a souvent des polars qui font des intrigues extrêmement bien ficelées et dont la fin tombe un peu comme un soufflé, quoi. Et ça, j'essaie d'éviter ça. Je ne dis pas que je réussis, mais en tout cas, mon obsession, c'est la fin. Il faut que la fin soit là... soit réussi, parce que je pense que c'est là-dessus que l'opinion du lecteur se fait. Il faut que la fin soit réussie. Après, le fait d'écrire sans plan, etc., et de moi-même me surprendre, rend le livre assez page-turner, c'est-à-dire qu'on a envie d'avancer assez vite dans les romans, parce que moi-même, je pense que c'est ma façon d'écrire qui fait que je me surprends moi-même. Et sur le précédent sur qui j'avais fait un plan, parce que je lui dis c'est quand même général bol de ne pas faire de plan, c'est quand même vachement plus sécurisant de savoir où on va. J'avais écrit 17 résumés de chapitres. Et au 18e, j'ai abandonné, je suis reparti à zéro. Et je les ai gardés en souvenir, les 17, et ça n'a rien à voir avec le roman. Donc c'est pour ça. Donc je ne peux pas, je pense que je n'y arriverai jamais à la faire. Voilà.
Bon, c'est vrai que la scène d'accroche dans les polars, elle prend le lecteur.
Et il faut, je pense que c'est essentiel. Et après, la scène de fin est aussi importante.
Oui, on va y venir après. Ouais, mais voilà. La fin est totalement de celui-ci, totalement hallucinante. Mais on ne vous dira rien. Ouais. Par contre, on pourrait parler donc, du coup du prologue, la scène de crime initiale.
Oui, alors...
qui introduit le livre et qui happe son lecteur.
Voilà, bon, c'est toute la... Alors, c'est l'histoire d'un crime horrible qui est commis à Boulogne. La caméra de surveillance de la rue, et justement, d'ailleurs, quand vous parlez de détails, j'ai choisi vraiment une rue où je savais où il y avait une caméra de surveillance. Vraiment, il y a vraiment une caméra de surveillance, parce que c'est essentiel. Donc, parce que les gens qui habitent la rue ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas de caméra de surveillance. Il y en a une. Donc, tout ce côté-là, c'est sûr.
La bouche d'égout en face aussi, alors ?
Oui, tout est... Non, parce que je suis allé dans la rue et j'ai vraiment tout noté. Donc, vraiment... Et le numéro 20, c'est en fait la seule... Enfin, le seul... Parce que l'action se passe au numéro 20 de cette rue, oui. Et c'est la maison d'un copain. En fait, il n'y a pas d'immeuble, c'est une maison, mais il m'a dit « Sinon, tu vas avoir des ennuis avec les voisins. » Donc, j'ai pris une maison, mais en fait, le 20, c'est la maison d'un copain. Un autre type que je connais. Et donc, la caméra de surveillance voit quelqu'un sortir d'un immeuble et jeter dans la bouche d'égout un petit paquet. Et le lendemain, ou dans la nuit, est découvert le cadavre d'une jeune femme, la tête tranchée et posée sur un... Je crois que vous hochez la tête. Ça commence bien. Massacré et décapité à coup de hache. Et donc, en revanche, très vite, le lien entre l'assassin et l'image se fait, puisqu'on voit là, et le type est arrêté dans la foulée, donc pour les policiers, à faire régler...
L'arme du crime, c'est bien la hache, tout correspond.
Il y a l'ADN sur la hache, etc. Donc, vraiment, tout... Tout désigne. Donc il est arrêté très rapidement et ils disent c'est pas moi qui ai tué, c'est mon frère jumeau. Et donc toute l'intrigue, c'est de savoir lequel des frères est l'assassin de la jeune femme qui était par ailleurs la petite amie de celui qui a été le premier à arrêter.
Oui, parce qu'en fait, ce que vous n'avez pas dit, c'est que sur l'image de la caméra de surveillance,
ah oui.
La cagoule glisse et dévoile le visage.
Le visage, voilà, c'est ça. Ouais, j'ai oublié
coup,
ça.
Le visage, c'est celui du petit ami de la jeune femme. Et quand il est arrêté, il nie tout et il impute le crime à son frère jumeau. Donc c'est la même image, voilà. Le même visage. Et là, ils sont totalement identiques, ça c'est étonnant.
Et ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
D'où le titre,
qui a été trouvé par François Verdoux, par l'éditeur. Et les jumeaux ont le même ADN. Donc il y a des traces d'ADN dans l'appartement et sur la hachette, mais là aussi ça ne permet pas de les différencier. La seule chose qui pourrait les différencier, c'est les empreintes digitales. Parce que les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Et c'est vrai que, alors ça c'est un peu pour l'anecdote, quand j'ai rendu le roman à François, il m'a dit « ton problème c'est les empreintes digitales ». Parce que dans la mécanique... le roman ne tient pas à cause des empreintes digitales. Alors là, j'étais... Donc j'aurais pu le modifier, etc. Mais c'est vrai que tout tient... j'y avais pas pensé. Et alors, j'ai appelé... Juste encore pour l'anecdote, parce que c'est... J'ai appelé... Je suis allé sur Internet et j'ai regardé la spécialiste française des empreintes digitales, qui travaille à l'hôpital Salpêtrière. Et donc, je l'ai appelé à la Salpêtrière, je me suis présenté, mais généralement, on dit « laissez vos coordonnées, on vous rappellera », m'a dit son assistante. Et au lieu de ça, elle m'a donné le numéro de portable de la spécialiste des empreintes digitales. Et dans la foulée, j'ai appelé et je suis tombé sur elle, elle a décroché, et elle aurait pu me dire « appelez-moi », etc. Elle m'a dit non, donc elle m'a consacré une demi-heure, et donc elle m'a expliqué qu'il y avait une maladie génétique qui faisait que qu'il y avait des gens qui n'avaient pas d'empreintes digitales du tout. Donc elle a sauvé le roman. J'ai eu du pot. Et en plus, avec des gens qui m'ont répondu tout de suite. Avec une dame qui est la spécialiste. J'ai été assez convaincant, sans doute, au téléphone. Et elle a pris son temps. Elle m'a expliqué qu'il y avait cette maladie. Après, j'ai cherché j'ai trouvé cette maladie sur Internet et ça a sauvé. Donc ils n'ont pas d'empreinte digitale. Donc on ne peut pas les différencier à cause d'empreinte digitale. Oui, mais j'ai eu du pot sur le fait qu'à la fois que son assistante me donne son portable... ce que généralement on ne fait pas,
oui,
et qu'elle me réponde tout de suite, et qu'elle me donne la clé de...
Je ne connaissais pas cette maladie, hein. La dermatoglyphie, une maladie génétique qui se développe pendant la grossesse, qui fait que la peau est lisse.
Ouais. Parce qu'en fait, si vous brûlez, les empreintes digitales disparaissent, et si vous brûlez vos doigts, ce qui aurait été une solution, mais les empreintes digitales repoussent derrière.
Ah, ça repousse.
Oui, c'est-à-dire elles se reforment. Par exemple, les immigrés qui sont à Calais, qui essaient de passer, etc., se brûlent les doigts pendant pour pas être identifiables ou identifiés. Mais après, ça dure 6 mois ou comme ça. Donc c'est l'une des méthodes. Mais en tout cas, les empreintes digitales se reconstituent toujours. Et ce qui est assez... Alors en revanche, il y a un auteur peut-être que vous avez eu ici qui s'appelle Yves Stravides, qui a écrit chez Sonatine. J'ai déjeuné avec lui il n'y a pas très longtemps. Et il a un frère jumeau. Donc on parlait du truc. Et il m'a dit, ce qui est incroyable, c'est qu'on on est un cas unique au monde. On a les mêmes empreintes digitales avec mon frère jumeau. Comme quoi, j'aurais pu...
Ça existe. Hein.
Ça existe. Ouais, c'est un cas unique. Ouais. Mais lui, il a les mêmes empreintes digitales que son frère, Yves Stravides, ancien journaliste de L'Express. Ouais. Donc, mais c'est en tout cas la dame m'a sauvé. Pour vous dire que là aussi, ça a été parce qu'il fallait quand même que je retravaille tout par rapport aux empreintes digitales.
Oui.
Parce que comme tout se passe en garde à vue, etc. Forcément, on prend les empreintes digitales des gens qui sont là. Donc, il aurait fallu que je trouve un stratagème pour échapper à la fin qui est là et qui maintenant se tient à partir du moment où ils n'avaient pas d'empreintes digitales, mais qui existe. Cette maladie existe. Elle est rare, mais elle existe.
Et ça touche les orteils aussi, vous disiez, non, les pieds ?
Oui, partout où il y a les empreintes, c'est-à-dire la plante des pieds, la paume de la main, etc. Il n'y a pas de... Parce que maintenant, la police ne se contente pas seulement de prendre des empreintes digitales, en fait, elle ne fait pas que ça, elle fait aussi ça. Elle fait aussi les empreintes de la main, etc., sur les criminels. Donc il faut que la main soit totalement lisse, sur les gens qui sont en garde à vue. La première chose qu'on fait, c'est faire des empreintes digitales.
Alors du coup, vos jumeaux sont des jumeaux parfaits.
Parfaits, voilà, c'est ça. Enfin, pas totalement identiques, et qui cultivent même leur ressemblance. Donc après, c'est un roman, hein, c'est-à-dire...
Oui. Même l'épi dans les cheveux,
oui,
ça donc, c'est possible, tout est pareil.
Non, c'est absolument tout est possible. Après, encore une fois, c'est un roman.
Oui.
Hein, c'est-à-dire, S'ils veulent ne pas se ressembler, il y en a qui peut couper les pieds, l'autre ne peut ne pas l'avoir. Mais en tout cas, si. Je suis assez fasciné hein, par les histoires de Joubert, parce qu'il y a des histoires incroyables sur la. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec ça. Plusieurs exemples, mais un qui était une histoire qui m'avait intéressé il y a une bonne vingtaine d'années, à l'époque où j'étais reporter, c'était deux frères qui avaient été séparés, deux jumeaux qui avaient été séparés à la naissance en Algérie en 62. Et un était resté en Algérie, avait été adopté par une famille musulmane, et l'autre avait été rentré en métropole, adopté, ils étaient orphelins, adopté par une famille juive. Donc chacun avait vécu sans savoir que. Sans savoir qu'il avait un frère, en fait. Et il n'y en a que celui qui était en métropole, le juif, qui, en faisant des recherches, s'est aperçu qu'il avait un frère. Donc il s'est mis à la recherche de son frère, qu'il a retrouvé. Et je les ai vus, hein, ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Bon, celui qui était algérien était un peu plus fort que celui qui était en métropole. Mais en revanche, ils avaient eu un parcours de vie incroyablement similaire, alors qu'ils avaient vécu séparés pendant près de 40 ans. Ils avaient 50 et quelques années, donc même 50 ans. Il y en a un qui était conducteur de bus à la RATP et l'autre qui était conducteur de camion à la Sonacotra, par exemple. Leur femme avait, l'une avec une consonance musulmane et l'autre avec une consonance juive, avait le même nom. Ils avaient le même nombre d'enfants. Et tous les deux filles. Donc c'est assez étonnant. Et ils avaient été malades en même temps. Alors, ils avaient été malades au même moment. Ils avaient eu les mêmes symptômes de maladie en même temps, sans savoir que l'un existait. Et c'est assez incroyable. Ils s'étaient mariés la même année. Donc, il y avait des similitudes incroyables. C'était assez fascinant en tant que tel, quoi. Donc, c'est-à-dire... Et Yves Stravides me racontait, justement, quand on a parlé de l'histoire des empreintes, qu'avec son frère, quand ils étaient jeunes, ils souffraient de problèmes oculaires. Comment ça s'appelle quand la vue se trouve, enfin, quand on a mal aux yeux, etc. Enfin, de migraines ophtalmiques. Et ça s'est arrêté ensemble le même jour. Et il m'a dit, il y a quelques mois de ça, j'ai eu alors que je n'avais pas eu de crise depuis 30 ans de migraine ophtalmique, j'ai eu une crise, j'ai appelé mon frère, il a eu la crise en même temps que moi. C'est incroyable, je veux dire, c'est un... Et ça, c'est une histoire. Pardon ? Je ne sais pas. Mais bon, après, il y a des histoires plus anecdotiques sur les jumeaux, hein. C'est-à-dire que il y a deux frères jumeaux dont l'un a été condamné à 10 ans de prison. Ça se passe en France, je crois que c'était à Fleury-Mérogis que l'histoire se passe, où au parloir ils ont échangé leur place. Et donc celui qui était condamné à 10 ans a pu sortir de prison sous l'identité de son frère, il se ressemblait. Et l'autre a pris la place de son frère en prison. Sauf que il a été juste condamné ensuite pour complicité, mais sans violence d'évasion. Donc il a pris une petite peine de prison de 3 mois. Et donc ils ont échangé leur place en prison comme ça. Il a fait évader son frère par le stratagème de la ressemblance.
Et du coup, vous y avez pensé pour votre livre ? Parce que ces deux jumeaux en miroir qui s'accusent mutuellement du meurtre, puisqu'il faut bien qu'il y ait un seul coupable. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Chacun se renvoie à la responsabilité. Ce thème du double qui est fascinant aussi en même temps.
Non, c'est ça. Je n'ai pas pensé. En fait, ce qui m'a donné l'idée du roman, c'est un fait divers qui était aux États-Unis. C'était vraiment une toute petite brève dans Le Parisien qui racontait l'histoire d'une bagarre. Je crois que c'était à Baltimore ou à Philadelphie, de deux bandes rivales de blacks qui s'affrontaient à coups de couteau. Et l'un des types était mort d'un coup de couteau dans la bande adverse. Et en fait, dans l'une des bandes, il y avait deux frères jumeaux. Et la justice américaine était incapable de les départager. Parce qu'ils étaient incapables, ils avaient des gants, donc ils étaient incapables de les partager. Donc il y avait l'image, on voyait l'image, la scène avait été filmée. Mais il disait c'est pas moi, il disait pas c'est mon frère, mais il s'accusait pas mutuellement, il disait c'est pas moi qui était. Et donc la justice américaine Après, la justice américaine est toujours des modes de fonctionnement un peu particuliers. Hein. En tout cas, ils ont été innocentés. Et c'est d'avoir lu ce petit article dans Le Parisien qui m'a donné l'envie d'écrire deux gouttes d'eau.
Parce que là, du coup, nous, lecteurs, on est toujours aussi sur le fil du doute. Y a-t-il un jumeau maléfique? Sont-ils de mèche?
Voilà, c'est ça.
Et vous jouez sur ça, quoi.
Hein. Oui, parce qu'à la fois, comme il y a des retours en arrière permanents dans le livre, c'est-à-dire de leur enfance jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire à la fois le fil conducteur, c'est la garde à vue, et avec des retours en arrière sur les relations qui s'établissent entre les deux frères.
Oui, parce qu'il y a plein de flashbacks en chapitre interné
plein de
sur le passé des enfants.
De flashbacks, et avec la construction de cette relation, on ne sait pas si c'est une relation de complicité ou de domination de l'un par rapport à l'autre, sans savoir lequel domine l'autre. C'est ça un peu les flashbacks, et qui rend le lecteur un peu qui interpelle le lecteur par rapport à la problématique de la gémilité, qui se demande lequel, est-ce qu'ils sont effectivement complices, est-ce qu'il y en a un qui a pris l'ascendant sur l'autre ou pas.
Oui, parce que vous soumettez des indices dans l'enfance, déjà au berceau.
Voilà, il y a plein de petits indices,
oui.
etc.
Oui, plein de petites choses troublantes qui inscrivent dans l'esprit du lecteur
En revanche, une fois qu'on a trouvé la solution, je reprends tout à zéro pour que les choses soient cohérentes par rapport à la démonstration, enfin, par rapport à celui qui est le coupable à l'affaire, à la scène de fin. Donc il faut quand même être... C'est ça que la cohérence, c'est-à-dire on n'écrit pas un truc et on...
Vous tenez le propos jusqu'au bout.
Voilà.
Oui. C'est vrai que ces deux jumeaux, il y a des scènes impressionnantes parce que, bon, dans les retours à l'enfance, Franck aurait tué à coups de hache le setter irlandais de la famille. Donc on se dit, attends, la hache apparaît déjà là, la tête décapitée.
Oui. C'est dans le sens inverse que les choses se sont faites. C'est-à-dire qu'en fait, au début, elle n'était pas décapitée, la victime. Mais c'est parce qu'il y a eu le setter décapité plus tard, je me suis dit que ça faisait... Donc je l'ai décapité après.
Oui, mais, c'est vrai, tout le détail, ça tient... petit point qui est dans le premier chapitre va se répercuter. Vous tenez votre propos, tous les fils se...
Non, c'est gentil de le dire, mais effectivement, le principe de la décapitation de la femme n'est venu qu'après. Donc après, c'est relativement facile de décapiter une femme.
Hein. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses troubles. Alors quand les deux jumeaux, quelques années après, il y a une petite sœur qui naît, et puis la petite sœur meurt, et on ne sait pas trop, la mort subite du nourrisson, est-ce qu'il n'aurait pas étouffé? Donc tout le temps, même la mort des parents, les parents sont morts quand les jumeaux avaient 16 ans, asphyxié par un poil dans la chambre, mais là aussi, on est dans des zones troubles, on ne sait pas trop. Hein.
Ouais.
Vous instillez un climat trouble. Hein.
Oui. Ouais.
Oui, c'est étonnant.
Mais à la fin, l'eau est claire.
Oui.
Non ? Tout s'éclaire à la fin.
À la fin, la scène finale, je dis rien sur la scène finale, mais qui est hallucinante, quoi.
Ouais.
J'aurais jamais pensé à ça.
Moi non plus, jusqu'à l'écrire. Jusqu'à mon dernier chapitre, je n'y avais pas pensé. Et je trouve... pas mal, effectivement. Ouais, c'est vrai.
Alors, on n'a pas parlé des policiers, quand même. Il faudrait dire un mot sur ce couple de flics.
Ouais.
Improbable, là. Et atypique, et singulier, et original, enfin...
Oui, parce qu'après, c'est important d'avoir aussi des personnages flics qui ne soient pas... Les policiers, pour en fréquenter pas mal, sont même ceux qui paraissent sont toujours des personnages atypiques, objectivement. Hein. C'est des personnages intéressants, avec des cassures, etc. Là, c'est un couple de flics, un chef qui est un peu acariâtre, petit, gros, etc., qui terrorise tout le monde. Et à côté de lui, il a un grand échalas qui lui sert un peu de contrepoids, etc., d'exutoire, mais qui est le seul qui est capable de lui dire des choses, etc. Donc ça fait un couple de flics avec des certitudes, chacun a ses certitudes par rapport à la culpabilité. Il y a une sorte de petit affrontement, mais ils ont toujours fait leur carrière ensemble. Ils se sont toujours suivis, et l'un acceptant d'être le second de l'autre, tout en étant quelque part son miroir aussi. C'est ça, ce couple de flics. Mais des flics, j'en ai rencontré, des flics comme ça existent. C'est ça qui est le... C'est ça. Et juste aussi pour la précision du roman, mes livres, je les fais lire à un copain à moi qui est l'ancien patron du 36. Et donc, il me note tout à la virgule près. Donc, tout ce qui. Parce qu'une garde à vue, c'est vraiment très précis. Enfin, il y a vraiment il faut que les choses soient justes aussi. Et donc, toutes les petites erreurs de procédure qu'on peut écrire quand on n'est pas un spécialiste de la justice ou de la police est vraiment juste parce que est relu à la ligne près amicalement par l'ancien l'avant-dernier patron de la PJ. Donc ce côté-là, je suis sûr que j'ai pas d'erreur. Norbouleur, c'est lui qui a mauvais flic. Voilà, je sais pas. Voilà.
Oui, je voulais venir sur ces personnages parce qu'ils m'ont étonné aussi, quoi. Donc il y a le commissaire divisionnaire Robert Laforge, une peau de vache teigneux, colérique, qui de temps en temps s'enferme dans son bureau,
ouais, ouais.
Et qui est pris de crises de rage.
Oui, ouais. Ouais, mais c'est... Et, si vous voulez, ce genre de personnage est totalement romanesque, en fait. Mais quand j'en ai parlé justement à mon ami, il m'a dit il existe, vous voyez. Alors, je ne dis pas que les flics sont tous comme ça, ils s'enferment dans le bureau, ils sont prêts à serrer tellement les poings que le sang...
Ils se crient jusqu'au sang, voilà. Comme si la douleur allait un peu servir d'exutoire. Voilà.
Et après, il reprend une attitude
frustration,
totalement,
oui.
Totalement
ça
sereine,
oui.
Etc.
Oui.
Après, il faut créer des personnages, parce que c'est un roman, c'est ça, c'est aussi avoir des personnages un peu étonnants, qui sortent un peu de l'ordinaire, qui ont du volume, quoi.
Oui.
Donc j'ai essayé effectivement que mes flics aient aussi de l'épaisseur.
Après, on ne sait pas trop sa vie passée. On sait qu'il y a eu une Madame Laforge, on sait qu'il y a eu un fils.
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais ça, c'est en retrait. Il vit que pour le boulot.
Vous savez,
beaucoup de flics dans les bouquins, c'est ça aussi.
C'est ça aussi. C'est vraiment un boulot de où on gomme quelque part sa vie. Les flics, c'est un massacre de vie personnelle, être flic. Quand même dur pour parce que c'est des horaires qui sont durs et puis être confronté en permanence au crime, à la douleur, etc. Je peux vous dire que ça marque les individus clairement, quoi. Enfin, c'est sûr. Donc il y a les flics, c'est un univers d'hommes fracassés souvent. Ça c'est vrai. C'est pour ça que souvent dans les romans où il y a beaucoup de héros récurrents flics, ils sont jamais fleur bleue là.
Oui.
Mais c'est la réalité. Souvent les flics sont vraiment des hommes à une volonté farouche, mais des hommes quand même brisés dans leur quotidien, dans leur vie personnelle. Et ça, c'est aussi le cas de mes deux.
Oui, c'est bien rendu aussi.
De mes
ça,
deux personnages.
La réalité.
Sans en rajouter des tonnes, parce que c'est pas le but du jeu. Parce que c'est les deux héros, c'est vraiment les deux jumeaux, mais les flics sont essentiels dans le dénouement de l'action, notamment Robert Laforge.
Oui, oui, toujours le réalisme.
Ouais.
Oui, oui.
Donc ça, c'est... Voilà. Moi, je suis vraiment... S'il y a une caractéristique de mes romans, c'est le réalisme.
Et puis une mécanique psychologique.
Et après, peut-être une mécanique psychologique.
Oui.
Ouais. C'est sûr, parce que moi... Oui. Après, c'est... C'est vrai que moi, ça m'intéresse. La psychologie humaine m'intéresse. Donc c'est ça que... C'est plus fort que moi. Il faut que je raconte des... Donc après, j'écris des polars noirs. Alors je pourrais faire des romans d'amour. Donc je fais des polars. Donc c'est plutôt cet univers-là dans lequel je me réalise mieux, dans la cassure des individus, dans la noirceur des personnages, que dans la blancheur et les petites fleurs, les petits oiseaux. Je préfère ça. C'est mon univers d'écriture.
Oui.
Je pense que j'y arriverai pas. Hein. Mais d'ailleurs, pour vous donner un petit raccourci, Je vais sortir le 3 juin un petit polar de 180 pages qui va sortir directement en livre de poche. Et je m'étais dit, bon, je vais essayer de faire une histoire d'amour. Je vais changer de nom, puis je vais faire une histoire d'amour. Et manque de peau, au bout de 20 pages, le mal m'a rattrapé. Et c'est une histoire horrible, au final. Désolé.
Oui, j'avais vu ça sur Electre qui l'annonçait. Ça va s'appeler Tu me plais.
Voilà.
C'est prévu pour le mois de juin.
Ça a commencé bien. Il manque de peau.
Et pourquoi il va sortir directement en poche, celui-là, si je peux savoir juste les dessous? C'est une exclusivité, un inédit qui...
Parce qu'en fait, ils font deux inédits par an. livre de poche, le livre de poche, et un qui était sorti avec Pierre Lemaître l'an dernier, et puis l'autre, je ne sais pas avec qui.
Oui, il y avait un Pierre
Et
Lemaître,
cette année, il y a un qui est déjà sorti avec un auteur anglais qui s'appelle Godard. Et là, c'est en déjeunant avec la nouvelle patronne du livre de poche qui m'a fait la proposition, vous n'avez pas une idée. Et j'avais commencé à écrire mon histoire d'amour. Hein. C'est parce que je voulais gagner beaucoup d'argent. Je voulais faire un Marc Lévy, un truc d'enfer. Et je lui ai raconté l'histoire et j'ai dit, mais je voulais faire... Mais j'avais déjà dévié, mais j'avais pas de, je l'écrivais pour moi tout seul, en fait. J'avais pas de, j'écrivais comme ça. Et elle m'a dit, super, l'histoire est assez... parce qu'en fait, elle est basée sur le hasard. C'est pour ça que c'était un peu Marc Lévy, parce que c'est le fait que vous soyez assis là, vous là, enfin, que les gens soient là, etc. Si vous remontez votre arbre généalogique, il y a un hasard extraordinaire qu'on soit en train de discuter, que je m'adresse à vous en ce moment, par exemple, vous voyez. Parce que vous auriez pu ne pas être là. Et s'il y avait fait beau, vous seriez sur le bassin d'Arcachon. Est-ce que je sais, vous voyez. Et donc, c'est une histoire de hasard qui se passe sur la ligne 1 du métro à Paris. Lui, il montre à Sablon et elle va à Saint-Mandé. Et donc là, il est très beau. Elle est très belle.
Ça ressemble à un conte de fées qui va virer...
J'ai pris des places. Formule 1, désolé, parce que... Et donc là, c'est Marc Lévy, jusque-là. Hein. Et donc, son passe-navigo ne marche pas, donc il rate le métro. Le hasard fait qu'il se retrouve assis, donc face à une très jolie femme. Et donc... le hasard fait qu'à un moment, ça match entre eux. Hein. Manque de peau, c'est un serial killer, lui. C'est là que l'histoire a dévié, malheureusement. Et que je ne ferai pas Marc Lévy, tant pis. Et tout le petit roman, c'est de savoir si le hasard va faire qu'elle sera sauvée ou pas. À votre avis. Est-ce que je suis si mauvais que ça? Oh, ça va.
Non.
Donc voilà. C'est l'objet de ce roman assez court qui va sortir directement en poche.
Vous devez aimer Pierre Lemaître, non, alors?
Pardon?
Vous devez aimer Pierre
Lemaître?
Non,
j'aimerais bien avoir le prix Goncourt, un jour.
Pour ses polars, parce que ce côté psychologique, il est là aussi.
Non, c'est sûr. Non, ouais. Moi, objectivement, mon maître, si je dois avoir mon polar, il est décédé, c'est Simenon.
Simenon, oui, ça ne m'étonne pas. Hein.
Donc voilà, donc, c'est vraiment... moi, je suis un lecteur assidu de Simenon. Et j'aime encore une fois, je dis sans toute modestie, hein, parce que sinon c'est un auteur immense, mais j'aime la façon dont il décrit le quotidien, et j'aime encore plus ses romans comme Le Chat ou les trucs comme ça, enfin les choses qui ne sont pas Maigret, qui ne sont pas les enquêtes de l'inspecteur Maigret, tous les romans qu'il a fait à côté, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, pour moi, quelque part de façon un peu plus moderne, mon univers ressemble un peu à celui de Simenon.
Oui,
c'est vraiment dans ce quotidien-là. C'est pas voulu, mais c'est comme ça.
Oui. Des personnages ordinaires, des dérapages,
C'est ça. C'est
comment, des mensonges aussi.
Des personnages ordinaires deviennent des personnages extraordinaires parce que les circonstances de la vie les mettent dans des situations...
Et les mensonges et les non-dits.
Voilà, c'est ça. Ouais. Mais vous savez, moi je pense que les êtres noirs, totalement noirs, ça n'existe pas. Et ni totalement blanc, ça n'existe pas. C'est-à-dire le vrai bon, ça n'existe pas. Même l'abbé Pierre, je pense qu'il avait des défauts.
D'ailleurs, pour Simon, on parlait d'œuvre grise, hein, il me semble. Hein.
Oui, c'est ça. Et je ne savais pas ça, qu'on parlait d'œuvre grise, mais je pense que les gens sont gris. Après, on est plus ou moins gris foncé.
Oui.
Mais on est tous un peu gris. Ouais. Vous aussi, madame, vous êtes un peu grise. Désolé. Voilà. Ouais. Non, c'est... Voilà, mais il faut l'admettre. Vous n'êtes pas parfaite.
Non.
Mais moi non plus, je vous rassure. Hein.
C'est ce que je pressens.
Voilà.
Alors, j'avais fait une petite sélection d'après ce que je savais de vous, de vos coups de cœur.
Ouais.
Alors, vous aimez Simenon, mais vous aimez beaucoup la littérature américaine, ai-je entendu? Et je sais que ça, c'est un de vos livres phares, paru chez Sonatine d'ailleurs. Hein.
Ouais, alors là,
un livre culte qui a mis 20 ans à être traduit en France, Au-delà du mal de Shane Stevens.
Je ne vais pas le dire, parce que même James Ellroy a dit que c'est un immense livre.
Ouais.
Donc si vous aimez les histoires de serial killers, je pense que c'est la... L'histoire est assez simple, en fait. Hein. C'est l'histoire d'un serial killer, mais qui est le fruit d'un viol entre un vrai serial killer qui a existé, un des grands serial américains qui s'appelle, je ne me souviens plus son nom, et de sa mère. Et donc, c'est l'histoire du dérapage de ce jeune homme qui est le fruit de ce viol jusqu'à une conclusion... vraiment, du début à la fin, on est pris par le truc. Pour moi, c'est dans le genre polar hard, hein, enfin, en l'occurrence. Mais je pense qu'il n'y a pas mieux de ce roman de Shane Stevens. Autant les suivants m'ont moins plu, mais celui-là est exceptionnel, vraiment. Et c'est un très, très grand livre, vraiment.
Ouais. Dans Les Américains, je sais que vous avez un petit faible pour Robert Crace aussi. Du coup, là, j'ai sorti le dernier en poche, Suspect, publié aussi chez Pocket.
Ouais. C'est lui qui a fait L.A. Confidential.
Et,
Requiem, qui est excellent. Et tous ces... les Robert Crace, moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui n'est pas chez Sonatine, en l'occurrence, mais qui est un excellent auteur américain.
Ouais. Le livre de poche avait édité Des coups de cœur de Jacques Expert.
Ouais.
Donc j'avais repris, en fait, des petites choses que vous disiez.
Ouais.
Alors, par exemple, sur Larson... Je ne sais pas si vous connaissez Eric Larson, Les Passagers de la Foudre, en poche, vous disiez, un document exceptionnel qui passionnera autant les amateurs d'histoire que les adeptes d'enquête policière.
Ouais, ouais.
Je vous avais des goûts très variés, en fait. Hein. Vous avez eu un coup de cœur pour le terrible Danois Albert Olsen.
Ouais, ouais. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez la série de ces. Avec le couple de. Pareil, un couple d'enquêteurs. Lui aussi est un peu cassé, enfin, c'est un enquêteur et avec son adjoint, on ne sait pas s'il est syrien ou irakien, enfin, c'est en tout cas il est du Moyen-Orient,
oui,
il s'occupe un peu, c'est une sorte de cold case, ils reviennent sur des affaires qui n'ont jamais été résolues, mais qui ont des résonances dans l'actualité. Donc voilà.
C'est beaucoup plus noir que ce que vous écrivez, ça m'a étonné, oui.
Oui, parce que je trouve que c'est... Après, les polars, enfin, ou les livres, il faut aussi que ce soit divertissant. C'est-à-dire ça, c'est plus divertissant que... Ce sont assez divertissants. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé, en revanche, objectivement, le dernier qui est... Dossier 60, non pas Dossier 60, le dernier...
Le dernier, c'est L'effet papillon.
L'effet papillon, j'ai pas aimé.
Il en fait peut-être un peu trop avec les personnages.
Je suis désolé de dire du mal d'un confrère. Autant les cinq premiers, j'étais très très bien jusqu'à Dossier 64. Et le dernier est moins bon, objectivement.
Il a dit qu'il en ferait 10.
Ah bon,
distance.
Non, il va le tenir à distance, il n'y a pas de souci.
Et après, aux banques, ça je ne connais pas bien par contre. Je veux bien que vous en disiez un petit mot.
Non, aux banques, c'est un copain.
Ah.
Voilà. Donc il fait des romans qui, lui, se passent aux États-Unis. Il n'est jamais allé aux États-Unis.
Il est comme vous, il se documente, alors.
Il se documente, et c'est un copain. Voilà, c'est... Et on a essayé, d'ailleurs, ensemble, d'écrire un livre.
Ça, alors.
Ouais. Et en fait, c'est très dur. On s'entend bien. On n'a pas réussi. Parce que c'est très compliqué d'écrire à deux, parce que lui est plutôt optimiste. Moi, je suis plus noir. Et ça n'est pas, tous les trucs, c'était une histoire, c'était plus qu'un polar, c'était vraiment une saga qu'on voulait faire, mais enfin bref. Et on a écrit beaucoup, et puis finalement on a, de concert, décidé qu'on ne pouvait pas, on n'y arrivait pas. Donc, et puis j'aime bien ce qu'il fait, aussi c'est beaucoup plus, c'est un peu comme Olsen, c'est un peu plus divertissant dans la...
D'accord.
Mais c'est un copain, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans la pile. Voilà, parce qu'il faut... Mais ce qu'il fait est bien, hein, en l'occurrence. Mais c'est vraiment un copain. Et on a, et vraiment pour l'anecdote, vous dire, on voulait faire un triptyque même.
Oh là.
Hein? Donc et comme c'était mon idée, peut-être que je le ferai un jour.
Ah, ça serait bien.
Hein?
Oui.
Mais c'est du taf quand même. Hein?
Oui.
Du travail.
C'est vrai que vous n'avez pas de héros récurrent. Ça vous a traversé l'esprit de créer un personnage qui reviendrait?
Oui, ça traverse forcément l'esprit et. J'ai pas envie, en fait, dans les médias. Non, j'ai pas envie parce que je trouve plus amusant d'inventer des histoires. Si vous voulez, moi j'ai un métier par ailleurs, et donc si l'écriture, je veux pas me sentir prisonnier d'un héros récurrent. Je trouve qu'un héros récurrent, je veux dire, j'ai un métier. C'est-à-dire, je veux dire par là, c'est que l'écriture est vraiment presque une récréation pour moi. Donc je veux pas me sentir obligé d'avoir un héros récurrent ou des héros récurrents qui m'enfermerait dans une... Oui. Dans une voilà, c'est ça. Donc je veux pas de ça. C'est-à-dire, à la limite, je pourrais très bien reprendre mes deux flics en faire des héros récurrents, pourquoi pas.
Oui.
Mais je veux pas, en l'occurrence. Ça, c'est vraiment un choix personnel, parce que je préfère partir sur les histoires inédites à chaque fois. Et l'histoire que je suis en train de développer, là, pour Sonatine... c'est aussi une histoire inédite, le prochain roman qui paraîtra l'année prochaine.
D'accord.
Et pareil, à la base d'un fait divers que j'avais traité quand j'étais à France Inter, qui est une histoire assez terrible en fait. Et après, la fin du roman n'a rien à voir avec le début de l'histoire. Mais le début de l'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui a eu une liaison avec un homme, et de cette liaison est né un enfant. Sauf que l'homme est parti alors qu'elle était enceinte, l'a abandonné alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Et l'homme est revenu 2 ans et demi plus tard, donc sa fille avait 2 ans et demi. L'histoire vraie, hein, ce que je vous raconte. Et il a voulu revoir sa fille, sauf que c'est effectivement sa fille, sauf qu'il ne l'a pas reconnue, donc il n'avait aucun droit sur elle. Et la haine qu'elle éprouvait sur cet homme qu'il avait abandonné alors qu'elle était enceinte a fait qu'elle a refusé qu'il voie sa fille. Et jusqu'au jour où il est arrivé un soir, est rentré chez elle, l'a attaché à la chaise et a disparu avec sa fille. C'est une histoire vraie. Donc sa fille, donc l'histoire s'est passée il y a 25 ans. Et elle, depuis 25 ans, elle n'a aucune nouvelle, alors qu'il sait qu'ils sont vivants quelque part. C'est sûr qu'ils sont, il ne l'a pas enlevée pour disparaître ou mourir avec elle, quoi. Il l'a enlevée pour avoir sa fille pour lui tout seul. Donc depuis 25 ans, la vie de cette femme n'a pas de vie. Sa seule obsession, ça a été pendant des années de retrouver sa fille. Donc on a retrouvé leurs traces, notamment en Belgique, en Martinique... on pense qu'ils sont au Venezuela, mais elle ne sait pas. Donc c'est terrible parce qu'elle n'a pas refait sa vie, rien. Sa seule obsession, ça a été de retrouver sa vie. Je l'ai vu il y a un an, là. Je l'ai revu il y a un an, on a déjeuné ensemble, et elle m'a dit qu'elle avait abandonné maintenant la quête de ça. Elle s'est retirée en Bretagne, lui seule. Elle était jeune, elle a une cinquantaine d'années. 55 ans, et donc c'est la base du prochain roman. Sauf que il y a un aspect romanesque qui fait qu'il va y avoir une intrigue policière autour de tout ça. Mais c'est inspiré d'une histoire vraie au départ, qui est une histoire terrible en fait. Hein, surtout de savoir que sa fille vit quelque part et qu'on a dû dire ta mère est morte, ou je sais pas, c'est une histoire abominable. Alors qu'il a une famille en France, le mari, enfin le père, a une famille, et sa famille affirme qu'ils n'ont aucune nouvelle de lui non plus. Et ça a été considéré comme donc il y a eu beaucoup d'enquêtes, parce que ça a été considéré comme un enlèvement d'enfant, puisqu'il ne l'avait pas reconnu, etc. Donc Interpol a fait des enquêtes, etc. Et ça n'a rien donné, sauf des traces. Et quand ils sont... C'est sûr qu'ils étaient en Martinique à un moment, parce que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des traces, mais ils avaient disparu. Donc voilà, le prochain, pour dire que je m'inspire aussi de mon passé de journaliste, en fait, pour créer des histoires. Voilà.
Alors je voulais juste conclure, parce que vous avez un titre annoncé qui va s'appeler « Scène de crime, 60 portraits de meurtriers célèbres ». Donc là, vous revenez au fait divers, au mois de juin aussi, auprès de la cité, je vois.
Quelle production.
Oui.
En fait, c'est les chroniques que j'avais faites sur France Info il y a 3 ans. Qui ont été rassemblés à l'ouvrage par les presses de la cité. Et le hasard veut que ça sorte aussi au même moment.
Oui, c'est ce que j'ai vu. Ouais.
Ouais.
Voilà. Donc, vous faites une double actualité.
Une double actualité. Et en fait, je ne voulais pas qu'il sorte là, et les presses à citer ont insisté, parce que ça fait trop à la fois, quoi. Non ?
En même temps, les éditeurs parlent de synergie. Voilà. On va entendre beaucoup parler de vous.
On verra. On ne peut rien, c'est comme ça. Mais c'est, en gros, c'est des chroniques qui ont été légèrement réécrites, parce qu'une chronique radio, c'est pas exactement comme... Donc il faut faire des phrases avec des sujets, des verbes, des compléments, ce qui n'est pas forcément le style radio. Mais en dehors de ça, le travail était assez simple. Ça a été rapidement fait, en fait. Et ça s'appelle Scène de crime. Donc c'est pour ça que votre... Pour ça, je connais l'histoire de l'équatorien dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il fait partie des personnages qui sont décrits dans ce livre.
Mais je pense qu'on peut remercier notre auteur. Merci beaucoup.